enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Nous nous proposons une prédication sur le mariage. Et bien ce soir, nous écouterons le pasteur Roland Dallot dans sa prédication intitulée « La fidélité ». Nous lirons le texte de base dans Proverbe 20, verset 6. L'orateur nous parle donc de la fidélité qui est définie selon lui comme quelque chose qui est constante et qui ne s'altère pas. Et fidèle, celui qui tient à ses engagements. La fidélité, poursuit l'orateur, est une qualité qui se fait malheureusement de plus en plus rare et qui disparaît. Prendre des engagements dans le mariage implique un engagement à la fidélité aussi. Est donc fidèle l'homme ou la femme qui respecte la vérité. Écoutons à présent le pasteur Roland Dallot, heureux mariage à tous ceux qui s'engagent dans le lien du mariage ce soir.
Alléluia. Hosanna.
Hosanna.
Vérité et la vie. Alléluia. C'est toi qui nous aimes. Tu es lent à la colère, mais riche en miséricorde. Tu es le Dieu de grâce. Alléluia. C'est toi qui donnes la joie, la vraie joie. C'est toi qui donnes la paix, la vraie paix. Alléluia. La paix qui dépasse toute intelligence. Alléluia. 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 C'est toi que nous adorons, Seigneur. À cet instant, Seigneur. Nous voulons élever ton Saint-Nom à ces lieux.
Seigneur, que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom et que cela soit réalité ce soir, alors que ces deux couples veulent s'avancer pour rentrer dans les liens sacrés du mariage. Nous prions que ta présence, celle qui ennoblit, celle qui enrichit, celle qui rend les choses meilleures, que cette présence soit notre partage tout au long de cette cérémonie. Et spécialement à cette heure que nous voulons ouvrir les 100 livres et essayer d'en tirer quelques réflexions qui puissent accompagner ces couples. Père, merci pour l'action de ton esprit, alors qu'à la fois nous proclamons cette parole, mais aussi alors que ton peuple est en train de l'écouter. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. En ces jours de mariage, j'aimerais partant de la parole de Dieu réfléchir avec nous sur un petit sujet. J'aimerais dire d'entrée les textes ou les versets, puisqu'il y en a un que je vais prendre, et tirer de l'un de mes livres favoris dans la parole de Dieu. Si j'en ai deux, je pourrais dire les deux livres que j'aime, c'est les livres des Proverbes et les livres d'Ecclésiaste. Et j'aimerais lire avec vous dans Proverbes chapitre 20e, au verset 6e. Proverbes chapitre 20, verset 6. Les sages disent ceci: beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui va le trouver? Et je disais que les livres des Proverbes et d'Ecclésiaste écrits par Salomon sont mes deux favoris, parce que ce sont des livres écrits par un homme qui a observé, il a vu les choses se faire ou être faites, et par l'observation, il a tiré des conclusions. N'a-t-il pas dit lui-même: j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui s'est fait sous les cieux, c'est-à-dire j'ai voulu comprendre les pourquoi des choses. Toute personne qui a vécu quelques années, même sans aller à l'école, à l'université ou dans des institutions un peu plus élevées, toute personne qui a vécu quelques années a au fil du temps accumulé une quantité de connaissances. Toute personne ayant vécu quelques années, cette personne observe, cette personne voit les choses, soit se faire ou être faites, cette personne arrive à une connaissance. Il arrive à déceler les principes qui se cachent derrière les choses, à comprendre la relation de cause à effet reliant certains phénomènes. Et Salomon est l'un de ceux-là. Il a observé dans la vie en général, et lui-même, il a dû être un matériel didactique. N'a-t-il pas dit un jour que tout ce que mes yeux ont désiré, je les en ai point privés? J'ai voulu appliquer mon cœur à la folie, au vin. Et la Bible nous parle de toutes sortes d'expériences par lesquelles il est passé. Mais c'est au soir de sa vie que Salomon a compris le principe. C'est au soir de sa vie qu'il a compris le pourquoi sa vie a été gâchée. Parce qu'il ne faut pas avoir peur des termes. Sa vie a été un gâchis. Au départ, chaque acte qu'il posait, il pensait bien faire. Mais quand il arrive à la fin, il fait un bilan, et quel bilan! J'ai un de mes vieux oncles qui, en mourant, m'a dit un jour, il dit: Roland, je regrette, car c'est au moment où je comprends les principes de la vie que je suis aussi en train de sortir de la vie. J'aurais voulu comprendre les principes de la vie un peu plus tôt, et j'aurais mieux vécu mon hier. Et voilà pourquoi j'aime souvent dire, nous qui sommes jeunes, nous avons la grâce d'avoir des matériels didactiques vivants. Des gens qui, quand nous les voyons, nous pouvons comprendre des choses, nous pouvons tirer les principes de vie, nous pouvons voir, voilà comment les gens agissent, et ceux qui agissent d'une telle manière finissent toujours d'une telle autre manière. Et les livres par excellence qui nous enseignent, afin que nous ne puissions pas tomber dans les travers par lesquels les autres sont passés, c'est la parole de Dieu. L'apôtre Paul ne dira-t-il pas que ces choses ont été écrites afin de nous servir d'exemple? Et ces choses ont été relatées afin que nous qui sommes parvenus dans les temps présents, que nous puissions ne pas faire les mêmes choses. Et chaque fois que j'essaie de lire les livres des Proverbes et les livres d'Ecclésiaste, je ne me lasse pas. En général, quand quelqu'un écrit un livre, il commence par une introduction. S'il n'y a pas de préface avant, il développe et puis à la fin, il conclut. Mais Salomon, lui, il a eu à écrire un livre avec un style particulier. Il commence son livre d'Ecclésiaste par la conclusion. Vanité des vanités, tout est vanité. Il met déjà la conclusion au départ. Parce que c'est quelqu'un qui exprime ce qu'il a vécu. Écoutez quelques réflexions pêle-mêle que j'ai pu tirer dans le livre des Proverbes ou d'Ecclésiaste. Il dit par exemple, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Principe qu'il a pu comprendre par l'observation. Celui qui parle beaucoup, le péché est toujours caché derrière. Il dit, celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir la sagesse que Salomon a eue à la fin de sa vie. Qu'est-ce que j'aurais aimé l'avoir déjà maintenant. Il dit encore, comme passent les tourbillons, ainsi disparaît les méchants. Mais le juste a des fondements éternels. Combien c'est beau. Plus loin, il dit, l'intégrité des hommes droits les dirige. Mais les détours des hommes perfides causent leur ruine. Salomon ajoute, celui qui aime la correction aime la science. Mais celui qui hait la réprimande est stupide. Quelque part encore, il ajoute, la lèvre véridique est affermie pour toujours. Mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Celui qui est derrière la vérité reste ferme. D'aplomb, il n'échange pas. Mais il dit, la lèvre est fausse ou la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Et toujours par rapport à la vérité au mensonge, il dit, le pain du mensonge est doux à l'homme. Mais plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Le pain du mensonge est doux. Mais quand on est découvert, même si l'on ne bégaye pas, on commence à bégayer. La bouche est pleine de gravier, pleine de sable. Il dira encore, et là c'est comme un conseil qu'il donne. Il dit, écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Et l'assoupissement fait porter des haillons. Il a observé. Et puis enfin, celui qui dit aux méchants, tu es juste, le peuple les maudit. Et les nations les maudissent à haute voix. Mais ceux qui châtient les méchants se trouvent appréciés par le peuple et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Qu'est-ce que la parole de Dieu est riche. Et c'est cet homme qui a tiré toutes sortes de réflexions qui dit aussi, beaucoup de gens proclament un homme fidèle qui le trouvera. Il veut à la fois nous faire comme une interpellation, mais à la fois il pose comme une question. Il fait un constat, il dit, beaucoup de gens proclament leur bonté. C'est-à-dire, ils disent le bien qu'ils font ou le bien qu'ils sont. Ils parlent des bons actes qu'ils posent pour telle ou telle autre raison. Mais les sages s'étonnent qu'il n'y a personne qui puisse dire, moi, je suis fidèle. Il dit, la bonté, tout le monde réclame être détenteur ou détentrice de la bonté. Détenteur ou détentrice d'un certain grand cœur à faire des choses. Mais il dit, je cherche un homme, je cherche une femme qui puisse lever son bout des doigts et dire, moi, je suis fidèle. Il dit, montrez-moi un tel homme. Montrez-moi un homme qui puisse dire, la fidélité est mon partage. Qu'est-ce donc la fidélité? C'est la question que vous et moi, on peut se poser. Le mot fidélité vient du grec fidelis, ou de l'autre racine fides, qui veut dire ce qui est constant. Ce qui ne change pas, ce qui ne s'altère pas, ce qui reste longtemps le même. Et à ce titre, j'aimerais aussi prendre quelques définitions que je n'ai pas inventées, que j'ai tirées du grand Robert, dictionnaire. On dit infidèle, celui qui remplit ses engagements, c'est-à-dire celui qui donne une parole et la tient. Fidélité, Une qualité qui se fait de plus en plus rare dans notre monde. Une qualité qui disparaît. Fidélité par rapport à la parole donnée. Fidélité par rapport à l'engagement. Je ferai ceci et on le fait. C'est lui qui remplit ses engagements. Et fidèle, c'est lui qui est constant dans son attachement pour quelqu'un ou pour quelque chose. Ça, c'est l'homme fidèle. Il reste constant dans son attachement pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et à ce titre, l'on peut parler de la fidélité en amour comme étant la capacité d'avoir, durant une longue période, une relation amoureuse avec une et une seule personne. Ça, c'est la fidélité. Puis-je dire que je suis fidèle? Pouvez-vous dire que vous êtes fidèle? Ma prière est que vous qui rentrez aujourd'hui dans ce lien sacré du mariage, que la fidélité puisse être votre partage. Prenez des engagements, vous allez les faire tout à l'heure, et que ces engagements vous accompagnent toute la vie. Et que cet engagement soit aussi constant. Qualité de celui qui s'attache à quelqu'un ou à quelque chose et qui y reste. Une pensée me vient à l'esprit, nous avons vu dans notre pays à une certaine époque, je me rappelle de l'époque de la conférence nationale, l'on pouvait se demander qui est fidèle. Parce que certaines personnes, les jours ou au grand public, ils se présentaient comme étant de l'opposition radicale. J'oublierai jamais le jour où l'on a dit allez fermer les portes du palais du peuple et que chacun qui dirige un groupe politique puisse passer devant et qu'il puisse dire il est de quelle obédience. J'oublierai jamais cette scène à la télévision, c'était terrible à voir. J'avais un de mes oncles qui dirigeait un parti politique et quand il venait chez nous à la maison, il nous faisait des discours d'opposants. Et je vis quand on a appelé son tour, il n'est même pas resté 10 secondes, j'ai chronométré. Rapidement, il est passé, il a dit, mouvance présidentielle. Et le soir, sa maison à Bandal était cassée. Manque de fidélité. Discours d'une certaine obédience, mais dans les actes, tout autre chose. Et cela me pousse à la troisième définition de la fidélité. Et fidèle, c'est lui qui respecte la vérité. C'est-à-dire, celui qui respecte la conformité entre la réalité et la reproduction. Et là, en général, on peut parler de la fidélité attachée à ces termes par rapport à l'art. On peut parler d'un portrait fidèle, un portrait qui reflète exactement ce que le modèle était ou ce que le modèle est. L'on peut dire, ce tableau est fidèle parce que ce tableau représente exactement ce que la borne est. Y a-t-il une concordance entre l'image que nous donnons et la réalité que nous sommes. En physique, l'on parle de la fidélité quand pour un appareil, l'on dit de cet appareil qu'il donne la même grandeur, de la même valeur, quel que soit l'instant de la mesure. C'est-à-dire qu'on utilise un appareil pour mesurer une grandeur, et quel que soit le temps de la mesure, la grandeur reste la même. L'on dira de cet appareil, il est fidèle. Et quand les sages disent « est-ce que l'on peut trouver un homme fidèle ?» Il veut dire « est-ce que l'on peut trouver un homme qui prend des engagements et qui les respecte » Peut-on trouver un homme, peut-on trouver une femme qui donne sa parole et qui la respecte, quelles que soient les circonstances? Les sages veulent aussi dire « peut-on trouver un homme que le temps et les circonstances ne changent pas dans ses points de vue ?» Un homme que le temps et les circonstances ne changent pas dans ses décisions et dans ses engagements. Un homme constant. Et par rapport à vous, la constance dans le mariage. La constance dans l'engagement pris devant Dieu et devant les hommes. Vous prenez cet engagement aujourd'hui dans l'état où vous êtes, mais vous ne savez pas ce qui vous attend. Y aura-t-il un élément demain qui va menacer la fidélité? Serait-ce un problème de conception? Serait-ce un accident? L'un des plus beaux couples que j'ai vu, je l'ai vu en Nairobi, c'est un couple qui, après 3 ans de mariage, la femme, après un accouchement, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, au moment de l'accouchement, elle a eu ses 2 membres paralysés. Vous savez, on aime bien les dire ici. Quelquefois, avec un grand sourire, j'ai plusieurs fois béni les mariages. Et j'ai vu quelquefois même avant que je n'ai terminé ma phrase pour dire « Veux-tu prendre cet engagement ?» Très vite, je le veux. Certaines jeunes filles qui sont célibataires même s'entraînent à la maison. Bonjour, je dirais comme ça. Mais c'est facile. Quand on dit marcher avec cette personne dans le bonheur, comme dans le malheur, dans la santé, comme dans la maladie, quand vous dites oui, quelquefois vous ne réalisez pas. Et je peux vous dire, quand j'ai vu ce couple, ça a été même un défi pour moi. J'ai essayé de me mettre à la place de cet homme, je dis, est-ce que je saurais rester avec cette femme? Est-ce qu'il reste par pitié? Est-ce qu'il reste parce que bon, on a commencé, ou bien il aime encore? Et les gens qui les ont connus m'ont dit, ça fait 5 ans, la femme est sur une chaise roulante. Je suis rentré dans cette maison, je ne sais pas, vous savez, quand les gens jouent au théâtre, ça se sent. Ça finit par se sentir, mais je sentais un amour vrai. Il s'appelait chéri toutes les 5 minutes. J'ai dit, cet homme, il doit avoir une grandeur dans son âme. Cet homme, il est d'une race spéciale. Et j'avais compris plus tard, parce que c'était un chrétien, non pas un chrétien nominal, mais un vrai. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle. Un homme qui peut rester constant. Un homme qui peut accompagner l'autre, quel que soit ce qui va arriver. Les sages disent, est-ce qu'on peut trouver de tels hommes? Oh, je prie que si les sages pouvaient venir ce soir et poser une telle question à l'église, que ceux qui sont nés de nouveau puissent dire, oui, tu peux le trouver. Et j'en suis un. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Un homme fidèle qui peut le trouver. Peut-on encore trouver des hommes et des femmes vrais? C'est dont l'image et la réalité s'accordent. Est-ce possible d'être encore fidèle aujourd'hui? Est-ce possible de prendre un engagement et le tenir toute la vie, surtout par rapport au mariage? Humainement parlant, on peut dire que c'est difficile. Si telle est votre conclusion, je ne suis pas tellement contre vous, mais je dirais que c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Difficile parce que ce n'est pas une qualité qu'un homme a par lui-même ou par ses propres efforts. Il faut 2 choses pour que cette qualité appelée la fidélité soit le partage d'un homme. Il faut premièrement un sens moral très élevé que seul Dieu peut donner dans un cœur et dans une vie. La fidélité peut être seulement le partage d'un homme qui a le sens, un sens moral très élevé. Un homme qui n'a pas besoin forcément d'une présence policière pour un rappel à l'ordre. Je ne suis pas fidèle vis-à-vis de ma femme parce que je la crains. Je ne suis pas fidèle parce que si je fais quelque chose, elle va me découvrir. Je suis fidèle parce que c'est un engagement que je pris devant Dieu, mais je suis fidèle aussi parce que j'aime ma femme. Un sens moral très élevé. Et une volonté très exercée, c'est-à-dire l'aptitude à résister à toute sollicitation extérieure et aux pressions d'un certain milieu. Certains ont eu à sortir de la fidélité, non pas forcément parce qu'ils l'ont voulu, mais à cause d'une certaine pression. Je parlais à un ami qui m'a dit, Roland, j'ai toujours été fidèle à ma femme jusqu'à ce que pour la première fois, là où je travaille à la banque, on nous donne une mission de service en Europe. Nous sommes allés avec des amis, on habitait une même chambre, et le soir, ces braves papas que j'ai respectés, je les ai vus chacun le soir sortir. Et chacun est rentré avec une dame, qui n'était pas sa femme, bien sûr. Je les ai vus s'amuser, faire toutes sortes de choses. Ils disent, je ne disais pas, mais pour la première fois, j'ai senti cette pression. Mais parce qu'il avait un sens moral très élevé. Il a dit, je ne l'ai pas fait. Et il m'a dit une chose, que je sais, ceux qui sont spécialistes en infidélité, ne vont pas accepter, vont dire, oh, c'est un faible. Il m'a dit, si j'allais avec une autre personne que ma femme, je ne saurais plus jamais regarder ma femme dans les yeux. Parce qu'il a un sens moral. Oh, les spécialistes se disent, qu'est-ce qu'il est faible? Parce qu'ils sont habitués. Ils tombent et ils reviennent. Comment ça va chez vous? La fidélité, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais j'insiste et je dis, c'est quelque chose que seul Dieu peut donner. Un cœur véritablement renouvelé. Voilà pourquoi j'ai espoir pour vous. J'ai espoir que vous allez rester fidèles à vos compagnes, frères. Et j'ai espoir que mes sœurs, vous aussi, vous allez rester fidèles. Oh, j'ai vu dans notre cité, dans notre ville, il y a des femmes qui portent l'alliance, mais les hommes mal intentionnés viennent toujours. Et que dire des hommes qui sont mariés? Ils subissent aussi ces pressions. Mais je crois en vous, parce que vous avez un sens moral, mais parce que vous avez aussi une volonté très exercée. Cela ne vient pas de vous, cela vient de celui qui vous a changé. Oh, si vous ne l'avez pas rencontré un jour, je ne dirai pas toutes ces choses. Je les dis parce que je sais qu'il habite en vous. Et l'abbé dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et vraiment passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. L'on réalise aussi que l'on est véritablement né de nouveau quand on se retrouve devant les mêmes tentations qui autrefois nous faisaient chuter, mais que maintenant nous sommes rendus capables de résister. Là aussi, l'on réalise jusqu'où Christ habite réellement et réellement notre cœur. Naturellement, l'homme est programmé à l'infidélité. L'homme est programmé à faire le mal. Dans le livre de Genèse, il est dit, le cœur de l'homme est depuis sa jeunesse enclin au mal. Et la fidélité, c'est un engagement de la raison. C'est-à-dire, je réfléchis et je décide de rester avec cette personne. La fidélité, c'est aussi un engagement de la volonté. L'un de mes passages favoris dans la parole de Dieu, c'est Daniel 1:8. Quand la Bible dit, Daniel résolut dans son cœur de ne pas s'essuyer avec les mains du roi. Il prend un engagement de la volonté. Il dit, je ne le ferai pas. Seigneur, donne-nous des hommes et des femmes qui savent prendre des résolutions. Donne-nous des hommes et des femmes qui savent décider, quelle que soit la pression qu'il pourra y avoir tout autour de moi, ça, je ne ferai pas. La vraie fidélité n'est pas une contrainte que l'on nous impose, mais c'est un choix et c'est un choix responsable. Et un mariage n'est véritablement un cadre d'épanouissement et de bonheur réel que là où il y a la fidélité. Là où chacun de conjoints peut savoir avec certitude que cet homme, c'est mon bien à moi, permettez-moi les termes, et mon bien exclusif. Je ne les partage avec personne d'autre. Et cet homme aussi peut avoir la même assurance. Cette femme, elle est mienne. Et je ne la partage avec personne d'autre. C'est dans ce cadre que le mariage, s'il y a fidélité, il y a épanouissement. Là où il y a fidélité, il y a confiance. Votre mari parle en mission de service 3 mois. Vous êtes calme et peinard. Une femme me disait, moi quand mon mari voit, je sais, il fait 3 choses. Soit il est en train de faire tout ce qu'il fait dans son travail, soit il est à genoux, ou soit il a sa Bible en train de souligner. Quelles que soient les dames qu'il peut y avoir tout autour, et ça c'est bon. Mais combien d'autres, vous les laissez partir et vous ne savez pas dans quel état ils vous reviennent. Surtout avec toutes ces maladies qui circulent dans le monde. Il revient, vous êtes avec, vous dites, est-ce que dès cet instant, la mort n'est-elle pas déjà en train d'agir en moi? Combien de femmes souffrent? Elle a été avec X, elle a été avec Y. Et vous savez, c'est une nouvelle qui circule à Kinshasa. Vous savez, votre mari sortait avec une jeune fille qui habitait Yolo. Et cette jeune fille serait morte de... La pauvre dame, tout mal que la mort de tête, comment se dit, est-ce que ce n'est pas... à cause de l'infidélité. Mais là où il y a la fidélité, il y a la confiance. Là où il y a la fidélité, il y a la paix. Là où il y a la fidélité, il y a la quiétude. La fidélité honore Dieu, mais la fidélité honore aussi l'autre conjoint. Quand vous êtes fidèle à votre conjoint ou conjointe, vous l'honorez. Et en général, les femmes souffrent beaucoup. Je parle souvent avec des femmes au bureau. Quand une femme apprend que son mari a eu quelqu'un d'autre, en général, elle veut souvent voir l'autre. Pourquoi? Je ne sais pas moi. Dans leur tête, elle se dit, j'aimerais la voir. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Qui a fait qu'elle puisse me laisser? Est-ce qu'elle a 3 jambes? L'autre se sent amoindri. L'autre se sent humilié. L'infidélité, elle est destructrice. Et ma joie, c'est de savoir que nous avons affaire à des couples qui marchent avec le Seigneur et qui veulent à la fois honorer Dieu, mais s'honorer l'un et l'autre. Je disais, humainement parlant, sans Dieu, un homme a difficile à être fidèle. Car la fidélité, c'est un attribut de Dieu. Et cet attribut, Dieu le donne à celui ou à celle qui croit en lui. En Deutéronome chapitre 7, verset 9, la Bible dit, « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération. » C'est la nature de Dieu, la fidélité. Garder sa parole, rester constant. Il dira même, quand une femme abandonnerait les fils sortis de ses entrailles, moi je ne vous abandonnerai pas, Israël. un Dieu fidèle. Dans Deutéronome 32, verset 4, la Bible proclame les caractères constants de Dieu en disant qu'il est les rochers, c'est-à-dire inaltérables, et que ses œuvres sont parfaites. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Dans Nombre, chapitre 23, verset 19, Balak relève l'incapacité de Dieu à rompre ses engagements et l'inaptitude de ses dieux à se renier. Il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, c'est-à-dire pour changer d'avis. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne va-t-il pas l'exécuter? Dans le psaume 17, au verset 14, David parle de Dieu comme celui qui est fidèle à la parole de ses propres lèvres. Et dans Hébreux 10, verset 23, on parle de Dieu comme étant celui qui est fidèle à ses promesses. Et comme je disais, cette qualité de Dieu, nous l'avons dès l'instant où nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur. Par les miracles de la nouvelle naissance, il nous change, il nous donne un caractère nouveau. Et non seulement un caractère nouveau, il nous donne des désirs nouveaux. Et non seulement des désirs nouveaux, il nous donne sa capacité pour que nous puissions accomplir ces désirs que lui-même a déposés dans nos cœurs. Voilà pourquoi dans Philippiens chapitre 2, verset 13, l'apôtre Paul dira, c'est seulement le vouloir sans nous donner le faire, c'est-à-dire la capacité, il sera un Dieu irresponsable. Il nous donne le vouloir, mais derrière le vouloir, il dépose aussi le faire. Frères et sœurs, je ne m'irai pas vous poser des questions comment vous avez vécu dans le passé. Votre passé est mis dans les oubliettes à cause du Seigneur. Ce qui compte, c'est ce que vous commencez à faire dès cet instant. La Bible dit, oublions tout ce qui est en arrière. Je cours vers le but. Faites de ces jours le premier jour de tout le reste de votre vie. Et commencez à poser des actes dignes de quelqu'un qui est né de nouveau. À cause du fait que vous êtes une nouvelle créature, il y a possibilité d'avoir cet attribut qui est la fidélité. Je disais que savoir que votre partenaire vous appartient en propre vous procure un sentiment de confiance à cause de l'exclusivité, un sentiment de sécurité. Et là aussi, il y a véritable fidélité, il y a transparence. Dans Genèse, chapitre 2, au verset 25, la Bible parle d'Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Il est dit, ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ils n'avaient pas besoin d'habits pour se protéger contre la chaleur et le froid. Sûrement, à l'époque, le climat était constant. Ils n'avaient pas besoin d'habits pour être décents, car ils étaient dans un état de pureté. L'un et l'autre, sans habits. Mais la Bible dit, il n'en avait point honte. Mais là, j'aimerais toucher cet aspect où ils sont sans habits, mais je n'aimerais pas les toucher sur le plan physique, j'aimerais les toucher sur le plan âme. Là où il y a fidélité, il y a transparence. Il n'y a rien à cacher. Je me présente à l'autre tel que je suis. L'autre me connaît. Et je connais aussi l'autre. Tout ce que j'ai fait, elle sait. Tout ce que je fais, il sait. Je n'ai aucun domaine que j'essaie de cacher à mon conjoint ou à ma conjointe. En général, quand l'un des conjoints commence à avoir un domaine secret dans sa vie, c'est un danger pour la constance du couple. Ça, je lui dirai. Ça, je ne lui dirai pas. Ils étaient tous deux sans habits, mais ils n'en avaient point honte. Dans la version originale, il n'est pas dit exactement qu'ils n'en avaient point honte. Il est plutôt dit qu'ils ne savaient pas ce qu'était la honte. Ils pouvaient se dire tout. Ils pouvaient chacun se présenter devant l'autre tel quel. Parce que c'était une relation fidèle. Ils s'appartenaient exclusivement. Ce que je suis, tu l'es. Ce que j'ai est à toi. Et rien ne peut être caché. Transparence. Ma prière est que Dieu vous aide en ces jours à rester soudés. Je terminerai avec ces deux pensées. On peut désirer la fidélité. Mais je prends deux choses qui peuvent nous aider à rester fidèles. premièrement, nous ne pouvons être véritablement fidèles l'un à l'autre que si d'abord notre relation avec le Seigneur, cette relation, elle est bonne. Dans la mesure où je suis bon chrétien et un vrai, bonne chrétienne, que je serai un mari aimant, un mari doux et par-dessus tout un mari fidèle et une femme fidèle. C'est ma chrétienté, c'est l'acran de Dieu en moi qui jaillit et qui porte des fruits. Et l'un de ces fruits, c'est la fidélité. C'est votre chrétienté qui fera la différence. Et là, j'aimerais dire, être chrétien, c'est bien plus que passer par les sacrements. Beaucoup de chrétiens le sont, mais de non. Être chrétien, c'est bien plus qu'avoir une carte de membre. Être chrétien, c'est bien plus qu'être régulier à quelques réunions. Être chrétien, c'est conformer sa vie aux enseignements de Christ. N'avoir d'autres législateurs dans sa vie que Christ. N'avoir d'autres codes de conduite que la parole de Dieu. N'avoir comme seul désir que la conformité à la parole et aux enseignements de Christ. Je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que la parole de Dieu me dit de faire. C'est dans cette mesure que je peux être fidèle. C'est dans cette mesure que je peux être un bon mari. Si seulement les hommes apprenaient d'abord à arranger leur relation avec Dieu, que des choses seraient différentes. Humainement parlant, j'ai difficile à demander pardon. Humainement parlant, j'ai difficile à m'humilier. Humainement parlant, j'ai difficile à venir corriger quelque chose qui a été mal fait. Mais c'est à cause de la présence de Christ en moi que je suis rendu capable de faire certaines choses. Dans notre culture, surtout à nous, les Noirs et les Bantous, qu'un homme puisse dire à sa femme, chérie, pardonne-moi, ça pèse. Mais la chrétienté nous rend capables de surpasser ces choses. Et combien de fois, quelquefois, le climat d'un couple dépend du fait que l'on donne ces petits mots qu'on ne lui donne pas. Chérie, pardonne-moi. J'avais mal agi. Je n'aurais pas dû hausser les tons. Je n'aurais pas dû faire ceci ou cela. On sait ce que l'on doit faire, mais seulement quelqu'un qui est brisé, quelqu'un qui est maîtrisé par Jésus-Christ peut le faire. Alléluia.
s'éloignera de Jésus. Alors combat le bon combat, tout le temps gardera la foi. Combat le bon combat, Christ est notre roi. Alors combat le bon combat, tout le temps gardera la foi. Combat le bon combat, Christ est notre joie. Aucune tentation ne t'est survenue qui n'était au-delà de tes forces. Dans ta fidélité, Dieu a prévu pour toi, pour la surmonter, le moyen de t'en sortir. Si tu donnes debout, prends garde à toi, de peur que tu n'en viennes à tomber. Car le diable rôde tout autour de toi, furieux comme un vieux. mourir. N'en as-tu pas assez de courir? C'est ta vie que tu fuis. Qu'importe ce que dit tout le monde, ce que tu veux, c'est ça que tu comptes. Et insouciant, tu t'en vas, tu te trompes, tourne-toi, rien qu'une seconde. Oh non, oh non, oh non, oh non, mais réveille-toi. Écoute donc cette voix qui te parle et crois, avant qu'il ne soit trop tard. Tu te tends la main, avant qu'il ne soit trop tard.
Aleluya, nyanga inga yesu nanga mota kota te mota kota te nakusifu maisha wangu nakusifa bwana wangu nakusifu maisha wangu nakusifa bwana wangu yesu ni bwana Yesu mkombozi wangu nakusifu maisha wangu nakusifu bwana wangu nitaimba juu yako bwana wangu tawale sayote bwana wangu juu yako nitacheza sayote bwana wangu juu yako nitaimba nanga ina Yesu nanga nanga ina Yesu nanga mota kota te Mota kota te anga ina Yesu nanga anga ina Yesu nanga Mota kota te Mota kota te Oui tu es le roi de moi c'est toi le Seigneur des seigneurs Oui tu es le roi de paix en toi j'ai mis ma vie je veux te louer mon roi pour la vie que tu me donnes la paix que tu m'accordes Alléluia Yanga ina Yesu nanga Yanga ina Yesu nanga Mota kota te Mota kota te Yanga ina Yesu nanga Yanga ina Yesu nanga Mota kota te Mota kota te
mbembo na nzila ya lula esengu na motema masatana ya kiko meka na motema natika Yesu Kristu alo binanga ya solo yo beteli lo samwe zongi si osima baninga bake poto bazwi mbongo molato yoko kufa sepama na mitali na bangi na miokeli mawa na tomboli solikolo yawe ala kisinga elamba na bomoi kitoko koleka nyoso ya se yango na koyemba nasengi yo mbongo te makumu to kitoko te tambola te pembeni na ngai nayeba kotosa kombo na yo nasalela moyili te zototo mokili te simanga makasi nkolo Yesu motema na bolembu mingi soki otiki ngai yawe papa nisuso ya kukambanga naluki mokili mobimba na monite tambeseyo nasengi yo mbongo te makumu to kitoko te tambola te pembeni na ngai nayeba kotosa kombo na yo nasalela moyini te zototo mokili te simbanga makasi nkolo Yesu motema na bolembu mingi soki otiki ngai yawe papa na misuso ya kokambanga naluki mokili mobimba na monike na meseyo nasengi yo mbongo te makumu to kitoko te tambola te pembeni na ngai nayeba kotosa kombo na yo nasalela moyini te zototo mokili te simbanga makasi nkolo Yesu motema na bolembu mingi soki otiki ngai yawe papa na misuso ya kokambanga naluki mokili mobimba na monike
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.